Indice boursier S&P 500, que peut-on encore raisonnablement viser? Alors, chers amis, il y aura toujours des corrections techniques à court terme. Mais eu égard aux fondamentaux, la tendance haussière de fond se relancera à chaque fois, comme vous avez pu l'observer sur les derniers chocs boursiers du marché qui ont rarement dépassé 15 ou 20%, avec rapidement une tendance haussière de fond qui se relance. Alors, vous pouvez entendre parler de bulles spéculatives, de marchés beaucoup trop chers, de bulles de l'intelligence artificielle. Il n'empêche, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, notamment sur le compartiment des semi-conducteurs au sein du secteur de la tech, le marché n'est pas si cher que cela en tenant compte des bénéfices anticipés. Je pose une question simple. Plutôt que d'annoncer un objectif sur le S&P 500, alors, qui est autour là des 7400-7500 points, qui peut peut-être à court terme, un jour, retracer vers son premier support tangible à 7000 et 7200 points, mais moi je pose la question de la fin d'année, que peut-on envisager? Que peut-on, et la nuance est ici, que peut-on raisonnablement envisager comme objectif de cours de fin d'année, plutôt que de crier au krach boursier tous les jours, quand bien même une correction aurait lieu à court terme, que peut-on raisonnablement envisager fondamentalement et techniquement pour la fin d'année? Et moi, mon approche, celle que je vais vous proposer, elle est méthodologique et elle est raisonnable. C'est-à-dire ne pas parler dans une euphorie d'objectifs de cours qui n'aurait aucun sens, mais simplement, vous allez voir, en appliquant une méthode simple que je vais vous expliquer, qui consiste en l'expansion des multiples de valorisation. Oh là ! Non pas faire de nouveaux records, simplement revenir, quelle serait la valeur en nombre de points de l'indice S&P 500 si certaines métriques phares des baromètres de valorisation revenaient tout simplement à leur record. Et oui, soit des records qui remontent à 1999, soit un record qui remonte à 1 ou 2 ans, simplement revenir à ces records. Et puis on va creuser le sujet. Nous connaissons le poids de la tech dans l'indice boursier S&P 500, le poids des GAFAM. Alors, si justement ces GAFAM, elles aussi, ces actions, retrouvaient leur record de valo de par leur pondération dans l'indice mathématiquement, qu'est-ce que ça donne pour l'indice S&P 500? Et donc, ça va me donner une fourchette fondamentale. Je vous rassure, il ne s'agit pas de viser 10 000 points sur le S&P 500. Et cette fourchette fondamentale, je vais la croiser avec des extensions de Fibonacci techniques pour avoir une cible raisonnablement juste à envisager si la fin d'année et qui n'écarte pas des phases de correction et de respiration à court terme, car il y en aura toujours. Alors, est-ce que ça vous intéresse de découvrir ma méthodologie et de découvrir ces objectifs de cours fondamentaux que je vous propose, sachant que si le S&P 500 finit par rejoindre ses targets d'ici la fin d'année, il arrivera à nouveau dans une zone où fondamentalement, il pourra être considéré comme cher. Chers amis, bienvenue. Nouvelle édition du Top Gun.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, chers amis, c'est parti, on attaque. Alors, bon, le principe est simple, vous l'avez compris. L'idée est de rester raisonnable. Raisonnable consiste à rester méthodologique. Méthodologique et raisonnable consiste à avoir une méthode et à ne pas surjouer la méthode, c'est-à-dire à ne pas envisager quelque chose d'euphorique, typiquement un mouvement euphorique concernant la tech. Rappelez-vous, 1999-2000, il suffisait d'ajouter un .com à une entreprise pour qu'elle parte sur une valorisation complètement déconnectée de ses fondamentaux. Alors, rassurez-vous, actuellement, l'IA, la tech, les semi-conducteurs ont une réalité fondamentale, comme d'ailleurs l'a à nouveau démontré les résultats du premier trimestre. Donc du coup, les multiples de valorisation, même si le S&P 500 a fait de nouveaux records, les résultats enregistrés au premier trimestre sont tellement incroyables, sans parler de ceux anticipés à horizon 12 mois, que l'indice fait de nouveaux records, mais ces multiples de valorisation ont baissé. Mon idée est toute simple. Toute simple. Quelle est la valeur du S&P 500 si nous ne faisons que retrouver les records de certains multiples de valo pour l'indice, pour les secteurs et pour certaines actions dont le poids combiné atteint presque 50% du calcul mathématique du S&P 500, les bien nommés GAFAM. Bon, Eh bien, c'est cette approche-là que nous allons faire ensemble et vous allez donc découvrir ces objectifs de cours. D'après vous, c'est quoi? 7700, 7900, 8000, 10000, 15000? Pas exagéré non plus. Mais c'est ce que vous allez découvrir. Bien sûr, ce sont des cibles à horizon 12 mois. Donc, même si le marché corrige quelques semaines, eh bien, ça ne remet pas en cause que ces cibles pourront être atteintes dans un second temps. Here we go, here we go, here we go. S&P 500, que peut-on raisonnablement viser? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Et commençons par le commencement. Oh my God, on ne peut rien viser, tout est trop cher. Et oui, c'est ce que nous dit c'est ce que nous dit Warren Buffett, c'est le Buffett Indicator, mais en même temps, nous sommes en bulle spéculative depuis plusieurs années en tenant compte du Buffett Indicator. Mais effectivement, jamais, la market cap totale du marché n'avait représenté un multiple aussi important du produit intérieur brut. Il n'empêche, certains secteurs de la tech, semi-conducteurs, bref, le cœur, l'infrastructure de l'IA reste pas cher en bourse. Donc, eh bien, il y a des justifications à cela. Mais effectivement, c'est une première question qu'on peut se poser. Pourquoi envisager à horizon 12 mois des objectifs de cours qui pourraient être supérieurs alors que nous sommes, selon le Warren Buffett Indicator, dans un mouvement complètement excessif, avec donc une capitalisation boursière totale qui représente 233% du PIB, et Warren Buffett nous dit que au-dessus de 160%, c'est significativement surévalué et que nous revenons toujours à la moyenne. Oui, mais voilà, l'intelligence artificielle change complètement la donne et c'est donc ce dont nous allons parler en essayant de se projeter les cibles fondamentales raisonnables à horizon 12 mois. Le principe simple de l'expansion des multiples. Je vais donc illustrer mon propos. Le principe simple de l'expansion des multiples, je vous donne un exemple méthodologique et ensuite, donc, j'ai créé ce tableau qui définit tous les critères que je vais utiliser. Vous allez voir, ils sont nombreux, enfin, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais je vous donne le principe de base. Je vous montre le raisonnement. L'idée, c'est quoi? On va prendre l'exemple du price earning de Shiller. Alors, le PE de Shiller, c'est le prix du marché rapporté au bénéfice des 10 dernières années, retraité de l'inflation. Ce que j'aime bien avec le PE de Shiller, c'est qu'il n'y a pas de bullshit. Les résultats sont là, ils sont tangibles, ils sont réalisés. Et là, en particulier, ça intègre les tout derniers résultats qui ont été publiés au premier trimestre 2026. Eh bien, l'idée est la suivante. Le record historique est de 44 sur le PE de Shiller. Actuellement, le SP500, qui fait de nouveaux records historiques, mais son PE de Shiller n'est que de 40,75. Question de toute bête, quelle serait la valeur du S&P 500 si on retrouve un PE de Shiller à son record à 44. C'est tout bête. Voilà. Vous avez vu, et j'ai mis 10 ans à trouver cette méthodologie. Bon, d'abord, il y a des choses un peu plus complexes, mais c'est le principe de base que je vais appliquer à plein de multiples. On va appliquer ça aussi aux secteurs qui comptent et aux actions qui comptent, et on va pondérer ça par le poids de ces actions et de ces secteurs. On a un truc à peu près qui tienne la route. Ce qui est intéressant, c'est que grosso modo, vous allez voir, ça donne les mêmes fourchettes. Donc, c'est ce que vous allez découvrir. Donc, alors, j'utilise le PE de Shiller ou cap ratio. Il s'agit donc du prix du marché rapporté au bénéfice des 10 dernières années retraite de l'inflation. Le PE forward, c'est le contraire. Enfin, c'est le contraire, c'est pas pareil. C'est le prix du marché rapporté au bénéfice anticipé des... ça me gratte le crâne, mais j'ai pris un petit coup de soleil. Des 12 prochains mois. C'est bon, ça marche toujours. J'enchaîne la salle de sport. Le PE régulier, donc le prix du marché divisé par les bénéfices des 12 derniers mois. Et ensuite, on va raisonner sur le PE forward des semi-conducteurs. Et je vais aussi raisonner sur uniquement les GAFAM. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le S&P 500 si les GAFAM retrouvent leur record de valo, notamment en termes de PE forward. Bon, voilà. Et que c'est quelque chose d'assez simple. Alors, l'ensemble, donc ça, ce sont les critères que je vais utiliser. Donc, c'est parti. Eh bien, qu'est-ce que cela donne? Vous avez donc ici un tableau synthèse que je vous ai préparé. Donc, il s'agit des objectifs fondamentaux haussiers raisonnables selon la simple expansion des multiples de valorisation. Alors, je vous raconte pas, si d'ici là, les résultats continuent d'augmenter et qu'on bat encore les anticipations et qu'on revoit en hausse les anticipations de bénéfices, ça va encore augmenter. Donc là, moi, je suis raisonnable. Je pars du principe que, voilà, on ne touche pas aux anticipations de profit, simplement les multiples reviennent à leur record. Un multiple, c'est donc le prix du marché par rapport à un fondamental, soit passé, soit futur. PE classique, PE forward, ou encore PE chiller, parce que là, c'est quasiment les 10 dernières années. C'est probablement celui-là le plus important. Et souvenez-vous, si vous avez suivi mes vidéos, le nombre de fois où j'ai dit que je pense que le S&P 500 fera un jour une vraie correction au moyen terme, le jour où il aura d'abord retrouvé un PE chiller à 44, c'est-à-dire le record de l'année 1999. J'ai toujours eu ça en tête. Donc, voilà le schmilblick. L'idée donc, actuellement, le PE chiller du S&P 500 est à 40,75. Quelle serait la valeur du S&P 500 si on remonte à 44? Le PE forward est à 25,5, donc j'illustre mon propos. Donc, le PE chiller 40,75, quelle serait la valeur du S&P 500 si on remonte ici sur le PE chiller? Ensuite, le PE forward est à 21,5. Quelle serait la valeur du S&P 500 si on retrouve un PE forward égal à 23,5? Le record datant ici de l'année 2020. Ensuite, je prends le PE régulier du secteur de la tech. Quelle serait la valeur du S&P 500 si le PE régulier du secteur de la tech, ici en vert, ne fait que retrouver son record qui se situe ici à peu près au niveau des 44-45? Bon, voilà, vous voyez que c'est raisonnable. Je ne cherche qu'à retrouver une traduction en nombre de points du S&P 500, simplement si les multiples de Valo retrouvent leur record. Bon, c'est pas non plus... Oui, parce que le S&P 500 fait de nouveaux records, mais pas ses multiples, parce que les résultats explosent tout à la hausse. Les profits réalisés et les profits futurs. Je vous renvoie aux résultats du dernier trimestre. Donc, on va appliquer le même raisonnement ensuite en tenant compte du PE forward des semi-conducteurs qui sont vraiment pas chers. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, forcément, donc les méga caps, je pose un peu mon micro parce que c'est lourd. Donc les méga caps, pourquoi c'est intéressant? Je vous rappelle ici ce que pèsent les méga caps dans l'indice S&P 500. Ça fait tout. Vous voyez donc Nvidia, Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Berkshire Hathaway. Voilà, donc 10 valeurs, 42% de l'indice. L'idée, c'est que si ces 10 valeurs retrouvent leur record en termes de valo, qu'est-ce que ça donne sur le S&P 500? Pour ça, il faut calculer l'objectif sur l'action et reporter l'impact en nombre de points dans le S&P 500 en tenant compte du poids de l'action dans le calcul du S&P 500. C'est pourquoi c'est important donc d'avoir ces données-là. Donc, pour pas faire n'importe quoi lorsqu'on raisonne sur le secteur de la tech, d'ailleurs, vous voyez qu'en tenant compte des résultats, regardez un peu ce résumé des résultats du premier trimestre, que ce soit en croissance des profits, en croissance du chiffre d'affaires, la tech écrase tout. Voilà, il n'y a pas de sujet. Alors, c'est intéressant de savoir, lorsqu'on raisonne sur l'expansion des multiples du secteur de la tech, c'est intéressant de rappeler que l'indice S&P 500 est décomposé donc en 11 super secteurs, Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Financials, Healthcare, Industrials, Information Technology, je vais le faire en français, hein, ce sera moins ridicule, les matériaux de base, l'immobilier et les services publics. Bon. À partir de là, moi, je me concentre ici sur la tech. Alors, j'aurais pu vraiment creuser le sujet en allant à fond, donc secteur pas secteur, faut pas déconner, j'ai pas que ça à faire. Bon, mais je me dis déjà là, on a quelque chose quand même qui tient la route. Ici donc, ce sera un scénario en combinant tout ça, et je me suis même amusé à essayer de déterminer si on faisait une bulle spéculative de type 1999-2000. Bulle, j'y crois absolument pas, on le fera pas. Une bulle spéculative de type 1999-2000, c'était celle-ci. Hein. C'était celle-là, 1999-2000. Alors d'ailleurs, au passage, voilà, c'est ici en 2000, je sais pas si c'était 99 ou 2000, bref, que le c'était 2000, que le PE de Schiller a atteint 44. Voilà. Ici que le PE chiller a atteint 44. Alors rappelez-vous un peu, je ne sais pas si vous avez connu ces grands bear market, phase d'expansion, grand bear market, la crise financière. Et puis depuis, donc voilà, le S&P 500, Voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est par exemple sur le S&P 500, l'idée, c'est de se dire jusqu'où le SP 500 peut monter. Si on revient au record du PH Schiller, le PH Schiller à son record en 44, c'était ici. C'était là, sur l'indice S&P 500. Alors, bien sûr, hein, tout ce que je vous montre là, ce sont des targets moyen-long terme. Moyen-long terme, fin d'année, allez, horizon 12 mois. Entre-temps, le marché peut tout à fait retracer, comme il le fait régulièrement, alternant les phases d'impulsion, petit retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Là, c'était la crise commerciale, là, c'était la géopolitique, là, c'était le bear market de 2022. La tendance de fond se relance à chaque fois. Donc, quand bien même à court terme, le S&P 500 aurait envie de retester sa moyenne mobile à 50 jours ou d'attendre à nouveau la moyenne mobile à 200 jours ou de faire un trading range, ça ne change pas le fait que fondamentalement, on peut chercher à se projeter de manière raisonnable et méthodologique sur les prochains mois. L'idée étant de savoir, c'est quoi la cible? Est-ce que c'est 7007? Si c'est 7007, c'est pas loin. Voilà. Ça, voilà, il faut connaître. Voilà, vous avez compris le Spielbeat. Donc, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce qui, moi, m'intéresse le plus? Moi, je vous le dis, ce qui m'intéresse le plus, c'est le PE Chiller et le PE Forward. Et aussi, un raisonnement sur le top 10 des méga caps. Ok, très bien. Donc, concrètement, et bien sûr, le PE Forward des stars des entreprises des semi-conducteurs, vraiment l'infrastructure IA. Donc, très bien. Si donc le PE Chiller du SP500 remonte à 44, si le PE Forward du S&P 500 remonte à 23,5, si le PE régulier du secteur de la tech remonte à 45, si le PE Forward des stars des entreprises des semi-conducteurs du S&P 500 remonte aussi à son record, qu'est-ce que cela donne en termes de projection en nombre de points sur le S&P 500? Peut-être que vous serez déçu, peut-être pas. Mais si donc les multiples reviennent à leur record, ça donne 8170 points en tenant compte du PE Chiller, 8250 en tenant compte du PE Forward, 8080 pour le PE régulier du secteur de la cote, 8350 à 8470 pour le Forward PE, donc de cette sélection des boîtes des semi-conducteurs. C'est ma sélection. Où est-ce qu'il est passé mon truc? C'est ma sélection. Elle est là, voilà, mon tableau, parce que ce sont celles qui sont vraiment moins cher que le marché. Et d'ailleurs, notamment Micron, malgré l'avancée exceptionnelle encore de Micron la semaine dernière, elle est vraiment pas chère. Vous savez que le PE Forward de Boeing, par exemple, ou de Walmart ou de Apple, c'est 40. Donc 7, c'est pas cher du tout. Malgré le fait que l'action Micron a un comportement incroyable. Donc, grosso modo, ça vous donne une target fondamentale raisonnable, comprise entre 8080 et 8004. 8080 et 8004. Donc, ce ne sont pas non plus des objectifs qui sont très loin de la valeur actuelle de l'indice S&P 500, mais qui peuvent sembler raisonnables d'ici la fin d'année. Bien sûr, il peut y avoir entre-temps une correction, mais cette correction, je pense, sera comme d'habitude payée. Et derrière, ça donne des targets. Donc, les cibles techniques raisonnables, qu'est-ce que c'est? L'idée là, c'est de se dire, est-ce que ces cibles fondamentales, est-ce qu'on les retrouve d'un point de vue technique? Le problème, c'est que lorsque vous évoluez sur des records historiques, vous n'avez pas de résistance passée. L'analyse technique a plusieurs outils pour chercher à se projeter, et vous avez notamment donc l'approche fractale des marchés financiers, puis vous avez donc dans cette approche fractale des marchés financiers les extensions de Fibonacci. Et effectivement, il s'avère donc que l'on retrouve grosso modo aussi à peu près ces zones-là. Je vais reprendre ici donc le graphique qui expose les bougies japonaises en données donc hebdomadaires de l'indice S&P 500 qui est rentré dans une phase d'accélération après être sorti par le haut d'un canal haussier, ce qui montre à quel point donc c'est une phase haussière qui a accéléré, mais en lien avec les fondamentaux. D'ailleurs, je pense qu'à un moment ou à un autre, on pourra revenir retester le canal. Donc, ça peut être effectivement cette correction court terme. L'idée, c'est de se projeter. J'ai projeté donc ici, nous sommes toujours dans la grande vague 5, une vague 5 est en extension, du fait des perspectives de profit du secteur de la tech, IA, semi-conducteur, projeter l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, projeter l'amplitude de la 3 au bas de la 4, ou décomposer la vague 5, et là, simplement faire un A égale C où un A est un 1 égale 3, vague 1 de la 5, vague 2, et je projette des amplitudes. Eh bien, cela donne donc un intervalle technique. Alors, certains objectifs ont déjà été atteints. Dans les objectifs les plus ambitieux que l'on trouve, il se trouve entre, donc vous avez déjà le 0,618 de cette première partie de la grande vague 5, vous avez le 1,236 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, et vous avez le 1 pour 1, cette jambe de hausse, la correction qui était liée à l'Iran, et on reporte le 1 pour 1. Ce qui donne un intervalle technique compris entre 7730 et 8005. 7730 et 8005. Donc, moi, ce que je vous ai montré juste avant, c'est que en restant raisonnable sur le plan des fondamentaux, vous avez, par la simple expansion des multiples, quelque chose qui se trouve entre 8080 et 8004. Et là, on voit que techniquement, la cible vraiment la plus ambitieuse, c'est 8005. Enfin, voilà, ça donne l'intervalle 8000-8004. Qui, si le marché y va d'ici la fin d'année, sauf si entre-temps on révise encore en haut les perspectives de profit, ou que d'ici là les résultats publiés soient incroyables, mais grosso modo, le S&P 500 va arriver dans une zone où il aura quand même une juste valeur fondamentale et probablement un surachat technique qui deviendra vraiment majeur sur les graphiques de long terme. Donc on ne trouve pas 10 000 points. On ne trouve pas non plus 9 000. Voilà. Plutôt quelque chose entre 8 000 et 8500 points. Alors, trouver des targets à 10 000 points, pour moi, ça, c'est vraiment la bulle. Ce serait quelque chose qui serait similaire et peut-être même plus fort que ce que l'on a eu en 2000. C'est-à-dire qu'en fait, le marché ferait de nouveaux records du point de vue du PE de Schiller. Le SOX n'est pas hors de prix, au contraire. Donc ça, les semi-conducteurs, vous savez que c'est vraiment le cœur du secteur de la tech et du secteur de l'intelligence artificielle. Le parcours la semaine dernière de Micron a été complètement incroyable. Je vous montre le parcours de Micron qui ne lâche rien. Voilà. Et lorsqu'on regarde Micron, on se dit, c'est pas possible, c'est trop cher. Micron est beaucoup trop cher, je ne peux pas acheter Micron, ça va crasher. Alors c'est un discours que j'entends. Le crash de Micron, je vais regarder le graphique hebdomadaire, j'en entends parler, ici c'est trop cher, ça va cracher, ici c'est trop cher, ça va cracher, ici c'est trop cher, ça va cracher, ah je vous l'avais dit, c'était trop cher, ah bah non, et bah non, bon, eh bien je vais vous montrer quelque chose, elle est vraiment pas chère, si vous voulez, malgré son parcours boursier actuel, elle a un PE forward de 7, elle pourrait faire encore x3, qu'elle serait toujours moins chère que les valeurs les plus chères du Dow Jones, qui sont plutôt autour de 40-50 en termes de PE forward. Et oui, c'est incroyable, mais c'est le cas. Moi, quand je vois Micron, son parcours incroyable, si j'avais un PE forward là à 30 ou 40, je serais là en disant « attention ». Mais avec ça, avec un PE forward toujours inférieur à 10, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part qu'elle n'est pas chère ? En tout cas, fondamentalement, selon ce critère qui est l'anticipation des bénéfices. Alors, si on se plante sur les bénéfices estimés, ça remet la copie en question, bien sûr. Ça remet complètement en question la copie. Les troupes suivent-elles les généraux ? Alors, ça commence. Il y a des signaux techniques qui sont intéressants. Tout d'abord, ce que je voulais vous montrer sur cette histoire de troupes, c'est la comparaison entre le PE forward du S&P 500 et le PE forward du S&P 500 equal weighted, c'est-à-dire que la tech n'est pas surpondérée. Eh bien, le PE forward du S&P 500 équipondéré n'est qu'à 16. Son record, lui, était autour de 20-21. Donc, lui aussi, il a encore de l'upside. Et quand vous prenez les choses sur le plan technique, pour déterminer si les troupes suivent les généraux, vous pouvez regarder, donc effectivement, donc ça c'est l'indice S&P 500, c'est le classique. Vous allez donc chercher vos indices boursiers parce que c'est important de se créer des listes. Donc, les indices sont là. Vous allez choisir le S&P 500 équipondéré. Il a aussi cassé une résistance. C'est un signal qu'il a donné la semaine dernière. Cassure de son ancien sommet. Bah oui, j'ai un signal des troupes qui suivent les généraux. Le Russell 2000, pareil, continue d'afficher des sommets et des creux ascendants. Les small caps suivent aussi les généraux. Et les micro caps aussi, incroyables. Elle casse aussi des résistances. toujours une séquence de creux et de sommets ascendants. Donc oui, au stade actuel, les troupes suivent encore les généraux. Alors, chers amis, d'après vous, est-ce raisonnable sur le plan fondamental et technique de se dire que quelque part d'ici la fin d'année, 8000 points pourra être rejoint sur le S&P 500, quand bien même au préalable il y aurait à nouveau une phase de correction, croyez-vous, dans un second temps, aux 8000 points? Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.